Bonjour, bienvenue, il est 9h à Paris, 8h en temps universel, merci d'écouter RFI. Une heure pour vous informer et vous exprimer, dans 10 minutes vos questions sur l'actualité, dans 30 minutes la dernière édition d'Afrique Matin, suivie comme tous les vendredis de votre libre antenne. Mais d'abord, le journal international. Bonjour Léa Boutin-Rivière.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. Si ce n'est pas maintenant, ce sera dans les minutes, dans les heures qui viennent. La France sur le point de connaître l'identité de son nouveau Premier ministre. Et cela pourrait être le patron du Modem, François Bayrou, un temps pressenti. Il est reçu en ce moment même par le président de la République. Moins d'une semaine après la chute de Bachar al-Assad en Syrie, c'est toujours l'incertitude sur la suite des événements. Le gouvernement qui sera nommé et l'unité dont il fera preuve. À Raqqa, on espère une réunification du pays. Dans ce journal également, l'ancien Premier ministre guinéen Kassori Fofana va pouvoir se faire soigner en France. Et puis, les salariés de l'industrie mobilisés hier pour demander de l'aide, alors que les plans sociaux se multiplient. Bientôt la fin du suspense en France, donc peut-être même dans les minutes qui viennent, le président Emmanuel Macron est censé désigner un Premier ministre d'ici la fin de la matinée. Les consultations se sont multipliées ces derniers jours, plusieurs noms ont été évoqués, mais une piste revient avec insistance ce matin, celle du patron du Modem, François Bayrou. Raphaël Delvolvé, bonjour.
Bonjour.
L'ancien et très éphémère ministre de la Justice est en ce moment même dans le bureau du président.
Oui, il est arrivé il y a une trentaine de minutes à l'Élysée. Les deux hommes poursuivent en fait une discussion entamée hier soir au téléphone. Mais attention à toute conclusion hâtive. Rien n'indique à cette heure que cet entretien ait pour objet une nomination. Il peut s'agir d'une simple consultation pour précisément informer François Bayrou qu'il ne sera pas Premier ministre. Il est tout à fait possible que d'autres personnalités soient également consultées ce matin par Emmanuel Macron. Certes, François Bayrou a un profil intéressant pour la situation. Cette crise politique illustrée par l'absence totale de majorité à l'Assemblée nationale, le centriste a toujours été un défenseur de l'esprit de coalition. Il défend beaucoup notamment la proportionnelle aux élections. Mais sa candidature comporte quelques défauts aussi, notamment parce que la gauche, dans ses différentes composantes, n'affiche mais alors aucun enthousiasme ces derniers jours sur cette hypothèse François Bayrou, tout simplement parce qu'il est l'allié historique du président Macron. Rappelez-vous, il avait renoncé à sa candidature à la présidentielle 2017 pour soutenir le président Macron à l'époque. Et puis à droite aussi, il y a une rancune très tenace contre François Bayrou, notamment parce qu'aux élections présidentielles 2007 et 2012, il avait appelé à voter contre Nicolas Sarkozy dans l'entre-deux-tours, ce que l'intéressé ne lui a mais alors jamais pardonné. Donc prudence toujours de mise à 7h.
Raphaël Delvolvé du service politique de RFI. Et on apprenait il y a quelques minutes que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a été approché par Emmanuel Macron et qu'il a refusé le poste de Premier ministre en raison, a-t-il dit, de son âge. Les pays du G7, dont la France, l'ont dit hier, ils espèrent un gouvernement inclusif et non sectaire en Syrie. Un peu moins d'une semaine après la chute de Bachar al-Assad, l'incertitude règne toujours sur le pays. Qui, quel groupe pour gouverner, quelle part accorder aux multiples minorités et acteurs politiques du pays? Comment construire l'avenir d'un pays ravagé par 14 ans de révolte, de guerre civile et de massacres? Une chose est sûre, en tout cas, hier, l'administration autonome du nord-est syrien a annoncé que le drapeau révolutionnaire vert, blanc et noir flotterait à présent aux côtés du drapeau des forces kurdes, de quoi laisser espérer une unification du pays. Marie-Charlotte Roupy.
Ces slogans, nés en 2011, résonnent à nouveau sur la place El Naïm de Raqqa, mais cette fois pour voir le drapeau de la révolution flotter au-dessus de la ville. Des adolescents grimpent en hauteur pour le brandir fièrement. Un groupe d'hommes repeint des lettres géantes « I love Raqqa » aux couleurs de la révolution en chantant.
Mes collègues et moi, on a tout laissé pour venir sur la place Al Naïm, parce que ce drapeau est le symbole de la révolution. C'est le drapeau unique de tous les Syriens.
La décision des autorités du nord-est syrien d'ajouter le drapeau révolutionnaire à celui des forces kurdes ravive pour eux l'espoir d'une réunification de la Syrie, divisée depuis la guerre civile, et pour les habitants de la région autonome d'obtenir les mêmes droits que les autres Syriens.
C'était le rêve de tous dans la province de Raqqa, de voir le pays réunifié, sans frontières, en une seule communauté, sous un même drapeau.
Aujourd'hui, ça s'améliore. Je vais pouvoir aller à Damas sans qu'on m'arrête, sans documents, sans peine. Je vais retourner voir mon pays.
En réalité, cette décision n'est que le début d'un long processus pour que ces espoirs deviennent une réalité. Il faudra attendre le résultat de négociations entre les forces kurdes et le nouveau pouvoir de Damas, qui redessineront les contours de la Syrie sans Bachar el-Assad. Marie-Charles Troupier, Raqqa, RFI.
La chute de Bachar al-Assad fait aussi craindre une déstabilisation de toute la région. Dans ce contexte, les autorités israéliennes ont ordonné à leur armée ce matin de se préparer à rester tout l'hiver dans la zone tampon du plateau du Golan. Une pluie de missiles et de drones dans le ciel ukrainien cette nuit. La Russie a lancé une attaque aérienne d'ampleur, particulièrement contre les infrastructures énergétiques. Des explosions ont été entendues à Kiev, à Odessa, à Lviv ou encore dans la région de Kharkiv. Les dégâts n'ont pas encore pu être évalués. Hier soir, le chef de cabinet du président ukrainien affirmait que son pays n'était pas encore prêt à entamer des discussions avec la Russie. RFI, il est 8h05 à Conakry, où l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana va pouvoir quitter la Guinée. L'ancien Premier ministre, donc en poste jusqu'à la chute d'Alpha Condé, a été autorisé à se faire soigner à l'étranger, lui qui est hospitalisé depuis plus d'un an et demi en raison d'un grave incident de santé. Les juges de l'instance de répression des infractions économiques et financières lui avaient jusque-là toujours refusé cette autorisation, puisque l'ancien chef de gouvernement est poursuivi pour détournement de fonds publics et corruption. Pour l'un de ses avocats, Maître Sampil, c'est donc une évolution positive, mais ce n'est pas entièrement satisfaisant.
Ça nous soulage et ça nous fait espérer qu'il va survivre à sa maladie. La Cour a décidé que Kassori soit transféré dans un centre équipé en raison du constat intime des magistrats qui se sont rendus à son chevet.
C'est-à-dire qu'ils ont autorisé qu'il soit transféré à l'étranger pour se faire soigner?
Il n'y a pas de centre spécialisé en Guinée. On comprend que c'est à l'étranger qu'il faille se rendre, et plus précisément dans l'hôpital où le diagnostic premier avait été posé, c'est-à-dire l'hôpital américain de Paris. Le problème, c'est que la Cour, en accordant le transfèrement de M. Kassori Fofana, a en même temps assorti ce transfèrement d'un délai fixé au 26 janvier 2025. Cela nous paraît, passez-moi l'expression, un peu absurde, parce que la Cour ne peut pas prescrire la durée de traitement en lieu et place des médecins qui le pratiquent.
Propos recueillis par Esdras Tikoumana. On en parlait dès le début de cette édition. Probablement un nouveau Premier ministre français dans les heures qui viennent. Et parmi les priorités du futur chef de gouvernement, il y aura la très délicate question du budget, bien sûr, mais aussi la situation économique morose. Quand les entreprises ne sont pas carrément en faillite, elles déclenchent des plans sociaux de plus en plus nombreux. D'après la CGT, plus de 300 ont été recensés en à peine plus d'un an, particulièrement dans le secteur de l'industrie. Hier, le syndicat a donc organisé des rassemblements devant plus d'une centaine de sites menacés. L'un de ces rassemblements se déroulait à Lorient, devant la fonderie de Bretagne, une ancienne filiale de Renault. Notre envoyé spécial Nathanaël Vitran y était.
Cela fait 60 ans que le métal est fondu ici à plus de 1500 degrés, prêt à se transformer en pièces mécaniques. Pour beaucoup d'ouvriers comme Lionel, la fonderie, c'est une histoire de famille.
Mon père a travaillé là 35 ans, mon frère est juste derrière, et ça fait 20 ans qu'il bosse là aussi, mon grand-père a bossé là.
Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, est arrivée. C'est le moment où plusieurs cadres de la CGT vont monter sur l'estrade et prendre la parole.
À partir du moment où un sous-traitant dépend 95% d'un donneur d'ordre qui est Renault, eh ben c'est plus un sous-traitant, ils font partie de Renault.
La demande vis-à-vis de Renault, c'est tout simplement de ne pas envoyer sa production en Roumanie ou en Espagne et de continuer à garantir une production ici à Lorient jusqu'en 2028, le temps que nous organisions la diversification.
On va pouvoir rentrer dans l'usine. C'est le directeur de l'usine qui se charge de faire l'accueil.
Comme vous le savez sans doute, on n'est pas toujours d'accord avec la CGT, mais je souhaite souligner qu'aujourd'hui, on partage un objectif commun, celui de sauver cette industrie emblématique et les 350 emplois qu'elle représente.
L'enjeu de cette visite, c'est de montrer que tout le travail de diversification a déjà commencé.
On a des clients qui attendent qu'on soit repris pour continuer avec nous. On a des clients comme John Deere, Pont-à-Mousson, Thales. John Deere, c'est pour l'agricole, Thales, c'est pour des obus, Pont-à-Mousson, c'est pour des plaques d'égout.
Nathanaël Vitran.
Fondeur, oui.
Lorient.
Chômeur, non.
RFI.
RFI 9h10, ici à Paris, c'est donc l'heure de vous laisser en compagnie de Juan Gomez pour Appel sur l'actualité.
Avec les auditeurs de RFI, merci Léa Boutin-Rivière. Restez avec nous, dans 30 secondes, RFI vous donne la parole et je vous donne l'heure, 8h10.